Chers auditeurs, auditrices de Radio Capi, bonsoir et bienvenue dans ce numéro de la Tribune de la Presse que j'ai l'immense plaisir de la présenter avec des confrères journalistes à travers les pays. Au cours de ce magazine, nous analysons les grands faits qui ont dominé l'actualité pendant cette semaine. Et pour ce soir, des sujets sont au menu de notre débat, à savoir la démission de Maître Constant Moutamba, ministre de la Justice et garde des Sceaux, et la signature de l'accord préliminaire de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation des États-Unis et du Qatar. Pour en parler, nous recevons dans cette émission John Kanyunyu, correspondant de Deutsche Welle. Bonsoir, chers collègues, bienvenue dans ces rendez-vous.
Bonsoir et bonne position d'écoute à tous les auditeurs de Radio Capi qui nous suivent à pareil moment.
Ernest Amoukouli, vous êtes directeur de programme de la radio Ebenezer et correspondant à l'agence France Presse Kisangani. Bonsoir chers collègues, bienvenue dans ces rendez-vous de la Tribune de la Presse et de Radio Capi.
Merci cher Tati. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent au pays et à l'extérieur. Et je salue aussi les confrères avec qui nous avons essayé de partager ce soir.
Pascal Kambala, vous êtes journaliste à la rédaction de la télévision Biwan. Bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous de la Tribune de la Presse de Radio Capi.
Oui, bonsoir à vous Tati, bonsoir aux co-débatteurs, bonsoir particulièrement à tous nos compatriotes qui habitent Goma, Bukavu, les parties occupées par les agresseurs. Espérons que dans les jours à venir, la paix va revenir dans cette partie du pays. Nous soutenons, nous sommes de cœur avec eux. Le Congo doit aller vers la paix véritable, la paix pour qu'on puisse démarrer avec le développement, démarrer mal. Un accent doit être mis sur la justice. Il faut que les Congolais qui ont été tués dans la partie du pays, les Congolais qui ont été pillés, la RDC qui a été pillée, il faut que la justice soit dite par rapport à cette situation-là.
Nous précisons que Kelly Nkoute coordonne ses rendez-vous sous la supervision de Martin Sebou Djangwe et Jean-Claude Ntsiala s'occupe pour sa part de la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de ces rendez-vous de la Tribune de la Presse.
L'information se retrouve aussi tout le jour sur radiocapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiocapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix à Goma, au Nord Kivu. Vous nous suivez sur la fréquence modulée 95.5 et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine hebdomadaire, la Tribune de la Presse. Comme d'habitude, vous avez chacun de vous une ou deux minutes pour commenter un fait d'actualité qui a captivé votre attention durant cette semaine qui est en train de finir. Alors, nous allons commencer par vous, John Kanyunyu. Nous rappelons que vous êtes correspondant de Deutsche Welle. Dites-nous, chers collègues, quelle est la nouvelle qui a captivé votre attention au Nord Kivu, à Beni spécialement, où vous êtes à l'instant?
Oui, à Beni, surtout à Lubero, c'est à une centaine de kilomètres de Beni. Il y a la pénurie en médicaments dans certaines zones de santé du territoire des Lubero, et ce qui provoque certains décès selon certaines sources. Donc il y a la société civile qui a lancé un cri d'alarme à l'endroit des autorités et des organisations non gouvernementales qui œuvrent dans le domaine de la santé de faire quelque chose avant que le pire n'arrive, parce que avec la guerre qu'il y a dans la région, il est un peu difficile d'accéder à certaines structures de santé, mais aussi certaines structures de santé n'ont pas de médicaments et elles ne savent pas desservir leur population comme c'était le cas avant cette guerre. Voilà un peu ce qui a retenu mon attention et je pense qu'à travers cette émission, les autorités nationales nous suivent et vont trouver des solutions à ces problèmes-là qui menacent des vies humaines alors que cette région fait face à une guerre, à une rébellion, mais aussi au massacre des civils perpétrés par les groupes terroristes de l'ADF venus de l'Ouganda. Donc je pense qu'une attention particulière de la part du gouvernement doit être orientée vers les zones de santé du territoire de Lubero pour essayer, tant soit peu, d'apaiser la population et permettre celle-ci à accéder aux médicaments ou ceux de santé appropriés, bien que nous sommes dans une période de guerre.
Je me tourne vers vous, Ernest Moukouli. Chers collègues, nous rappelons que vous êtes directeur des programmes de la radio Ebenezer et correspondant de l'agence France Presse Kisangani dans la province de la Tchopo. Dites-nous, quelle est l'actualité qui a captivé personnellement votre attention cette semaine dans la Tchopo?
La Tchopo, actuellement, elle est secouée par une lettre déposée par un député de, élu du territoire de Bassoko. Nous sommes à l'Assemblée provinciale. C'est une question orale avec débat adressée au gouverneur de province Paulin Lendebolia. Cette lettre a été déposée le jeudi 19 juin dernier au secrétariat de l'Assemblée provinciale. Et beaucoup de questionnements passent à la tête sur les mobiles de l'action du député Emmanuel Mako. Juste le lendemain de la tenue de la conférence des gouverneurs, qui s'est accompagné d'ailleurs, il y avait la présence aussi du président de l'Assemblée provinciale là-bas, et aussitôt arrivé, des jours après, et les gouverneurs se voient être secoués par cette question orale avec débat, bien que les bureaux n'ont pas encore réagi. Vous savez, cette province a connu des saltans, je pèse bien le mot, entre les deux institutions provinciales. On ne sait pas si cette procédure va nous tenir encore dans des années de crise interinstitutionnelle. L'autre fait, c'est l'arrivée d'un nouveau patron de la police nationale congolaise ici à Tchopo. Il s'agit du général Elvis Palanga, en provenance du Maniema, si je ne me trompe pas. Et cette arrivée, franchement, est saluée par beaucoup des habitants de cette ville de Kisangani, qui compte près de 2 millions d'habitants. Et il arrive au moment où la criminalité est en hausse dans cette ville. Et ses premières paroles inspirent confiance, bien sûr. C'est toujours avec un peu de pincette, parce que les gens ont besoin du concret. On n'a plus le temps de passer des nuits paisibles à Kisangani, sans pour autant qu'on tire, sans pour autant qu'on tire à bout portant. Ce sont des voleurs en main armée, des armes de guerre qu'on utilise pendant ces braquages. Voilà le défait que je souhaitais partager avec les millions des auditeurs de Radio Capi.
Je me tourne vers vous, chers collègues, gardez l'écoute. Je me tourne vers vous, Pascal Kambala. Nous rappelons que vous êtes journaliste à la rédaction de la télévision Biwan. Dites-nous, quelle est la nouvelle qui vous a personnellement retenu votre attention cette semaine qui est en train de s'achever?
Oui, en fait, moi, c'est la sortie officielle de la gauche congolaise, dirigée par Jean-Marc Kabound, qui est un ancien compagnon de lutte de l'actuel président de la République, Félix Tshisekedi. J'ai vu aussi un autre compagnon de Félix Tshisekedi, Patrick Katanga. J'ai vu Sofia Longa. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi tous ces temps-là, les politiciens congolais ne se réunissent pas autour de l'idéologie? C'est-à-dire, vous savez, la politique, partout ailleurs, sauf en Afrique, où des élections disons, il y a quelques exceptions en Afrique, la politique est faite en fonction des idéologies. Mais chez nous, ici, vous verrez des acteurs politiques. Ils ont été avec le maréchal Mobutu. Là, les choses basculent il vient avec Laurent Désiré Kabila. Côté sa capote, il vient vers Joseph Kabila. Quand sa capote, il est maintenant actuellement avec Félix Tshisekedi. Vous posez la question, ce monsieur, cet acteur politique, cet homme politique, cette femme politique, cet homme politique, issu de quelle idéologie? C'est pourquoi il y a un bruit dans notre pays. Et cette situation dérange même les consciences, les comportements, la vision de la population. Vous ne pouvez pas comprendre les gauches s'allier avec les droites avec la gauche, les centristes avec la gauche. Donc, la classe politique congolaise a incarné cette médiocrité, accepte cette expression, où je fais la politique par rapport à ma situation sociale. Je ne fais pas la politique par rapport à l'idéologie. J'ai apprécié, j'ai encouragé cette initiative dans le sens que il faudra qu'on arrive à comprendre qui sont du côté de la gauche en RDC, qui sont du côté de la droite à la RDC. J'ai toujours dit, comment comprendre les PPRD et l'UDPS ne se mettent pas d'accord alors que tous sont du gauche? Il faudra qu'on puisse comprendre cela. Donc, la politique, on doit cesser avec cette politique-là de prostitution. À chaque fois qu'il y a un régime qui change, je quitte l'autre. Même si j'ai vanté hier Mobutu, j'ai vanté hier Laurent Désiré Kabila. Joseph Kabila, actuellement, c'est Félix Tshisekedi. Et si un autre régime arrive demain, vous verrez la classe politique, c'est comme si nous allons à l'église. Et ces comportements, je l'ai dit, ça détruit fondamentalement les Congolais. Les Congolais ne se retrouvent pas. Aux États-Unis, vous avez les démocrates et les républicains. Il y a un autre parti politique qui est là aussi. Vous arrivez en France, il y a la gauche, il y a la droite, il y a l'extrême droite. Vous arrivez en Bretagne, il y a les conservateurs, il y a les travaillistes. En RDC, quand vous arrivez, c'est rien. Quand le régime change, tous nous allons là-bas. Donc, c'est fausser les débats, c'est fausser mais l'avenir d'un pays. Donc, aujourd'hui, j'ai salué cette naissance, mais il faudra que cette classe politique, celle qui constitue la gauche congolaise, exprime l'idéologie de la gauche congolaise. C'est comme ça que la politique fonctionne.
Merci et beaucoup.
Nous, ce qu'on voit dans notre pays ici.
Merci beaucoup, cher collègue.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent RadioCapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Merci beaucoup, cher collègue Pascal Kambala. Je remercie également chacun de vous d'avoir décortiqué pour nos auditeurs l'actualité ayant retenu votre attention durant cette semaine dans vos milliers immédiats. Le premier sujet de ce soir, chers collègues, concerne la démission de Maître Constant Moutamba, ministre de la Justice et garde des Sceaux le 18 juin dernier. En effet, Maître Constant Moutamba est poursuivi pour des accusations de détournement du fonds public destiné au projet de construction d'une prison à Kisangani dans la province de la Tchopo. Bien qu'il rejette fermement ces accusations, mais il a fini par déposer sa démission le 18 juin dernier. Chers collègues, comment commentez-vous, comment analysez-vous cette nouvelle? Nous commençons par vous, John Kanyunyu. Nous rappelons que vous êtes correspondant des DTVL.
Oui, nous avons suivi cette situation, ce dossier. Nous essayons un peu de l'analyser. Moi, à mon avis, je pense que le ministre honoraire de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, est tombé lui-même dans son propre piège. Pourquoi je le dis ainsi? En accédant à ce fauteuil, il s'était passé pour un extraterrestre, un extraordinaire, et donc tout le monde pouvait grignoter quelque part, sauf lui. Et je me rappelle de l'incident qui avait eu lieu dans une rencontre entre certains membres du gouvernement. Oui, avec les jeunes. Et je me rappelle de ce qu'il avait dit, je sens l'odeur du détournement ici. les jeunes n'avaient pas de travail, les jeunes n'avaient pas de travail, donc s'il y avait l'odeur du détournement, l'odeur là était du côté des gouvernants. Et il y avait la présence de la première ministre, chef du gouvernement, et moi je me suis dit, c'était quand même pas courtois de sa part de faire cette déclaration que moi j'appelle populiste, pour faire plaisir aux jeunes qui, du tout, ne sont, dont il n'est pas redevable. Et moi je me suis dit, avec ça, il n'allait pas faire grand chemin, et voilà, et avant cela même, il y a eu ce démêlé avec les magistrats, hein, vous rappelez bien des assises là, l'état généraux de la justice,
oui.
Et les magistrats s'étaient plaints de dire que il avait ses rédacteurs à lui, donc les textes écoulaient de ces états généraux ne reflétaient pas la réalité. Et je me souviens, j'avais couvert même leur déclaration, et moi je m'étais dit que c'était déjà une guerre ouverte entre le ministre et les magistrats. Donc, après, à part ça, il y a eu son dossier avec le procureur général de la Cour de cassation, Vaudet, quand il avait dit, quand on parlait de quelque chose de détournement de 900 000 dollars, qui aurait été envoyé en Europe, je ne sais pas, pour acheter une immeuble. Donc, avec tout ce contentieux-là, moi, je me disais que avec tous ces dossiers-là, avec les magistrats, moi, je me disais que en tout cas, il s'était créé des conflits un peu partout. Donc, moi, je dis, il était seul contre tous. Voilà ce qui vient de lui arriver. Et je pense que cela doit servir de leçon à d'autres jeunes qui ont accédé à certaines responsabilités pour y travailler, y prester avec sagesse, mais aussi sans tenir compte du populisme, parce que bon, j'ai comme l'impression qu'à Kinshasa, quand on est applaudi par un groupe de jeunes flatteurs, on se dit super, mais moi je me dis, le cas Constant Mutamba doit servir de leçon aux jeunes qui sont l'espoir de ce pays, parce que nous autres on est en train de vieillir, ce pays on va le léguer à ces jeunes-là. Donc, ils doivent se comporter en sage et garder quand même les fonctions, donc les responsabilités leur conférées, pour que quand même les vieux disent que non, bon, nous pouvons nous en aller et nous avons une relève assurée. Voilà un peu ma lecture par rapport à ce qui vient d'arriver au ministre honoraire Constant Mutamba.
Merci beaucoup. Il a voulu se faire passer en donneur des leçons. On vous garde en ligne. Je me tourne vers vous, Ernest Moukouli. Nous rappelons que vous êtes directeur de programme de la radio Ebenezer et correspondant à l'agence France Presse à Kisangani. Comment commentez-vous cette actualité relative à la démission du ministre de la Justice et garde des Sceaux qui a eu lieu le 18 juin dernier?
Vous savez, l'élan de la restauration de la confiance des Congolais envers la justice est en panne. Avec cette démission brutale du ministre Constant Mutamba. Parce que Kisangani peut être la ville la plus attristée de ce qui vient d'arriver au ministre de la justice. Hein. Hein. C'est comme si le soleil s'est arrêté. Hein? Ce ministre a inspiré la confiance à beaucoup des exclus de la justice, surtout dans cette ville. On a organisé, il a organisé des tribunes populaires, n'est-ce pas, là où la population, tout celui qui avait un dossier au niveau de la justice et qui ne se sentait pas vraiment, qui ne se sentait pas être devant une justice juste et équitable, s'est présenté là-bas. Et ma radio avait couvert toutes ces débats démocratiques, ben, tout d'un coup, cet élan qui essayait de restaurer l'image positive de la justice vis-à-vis des justiciables, qui, comme je venais de le dire, est en panne. Vous voyez? Donc, il avait des ambitions, ce ministre, n'est-ce pas? Jusqu'à vouloir rendre applicable la peine de mort, n'est-ce pas, à tout celui qui sera condamné pour détournement de l'argent de l'État. Mais c'est une exception. C'est une exception dans tout ce qu'on a toujours connu dans cette ville sur le comportement de tout celui qui est revêtu d'un pouvoir public.
En même temps, cher collègue, oui, le collègue John, il a dit qu'il est tombé lui-même dans son propre piège, malheureusement.
Oui, parler de piège pendant qu'il disait des choses qui sont vraies, n'est-ce pas? Chacun a sa nature, sa manière de s'exprimer. Le mal était profond. Il n'est pas le premier à le dire. C'est le chef de l'État lui-même qui commence à le dire. Que la justice est malade, n'est-ce pas? Et que lui a été choisi par le président de la République pour essayer d'apporter un peu des solutions. Il y a ça, bien sûr. L'ouverture d'un procès contre cet ex-ministre, mais c'est un signal fort. Je comprends l'idée de mon confrère John Kanyono. C'est un signal fort. Oui, lui-même devrait prêcher par l'exemple. Mais c'est sa lettre, Tati. C'est sa lettre de démission qui m'interpelle, qui m'inquiète. Vous voyez, quand il parle d'un coup de poignard, du complot politique visiblement conçu, voilà, qui vise à freiner l'élan des réformes et du patriotisme, il arrive même à dire que c'est pour désorganiser la riposte gouvernementale contre l'agression rwandaise. Vous voyez, est-ce qu'il n'y a pas moyen de regarder autrement ce qui vient d'arriver au ministre Constant Mbamba? Si réellement c'est une volonté du pouvoir judiciaire à mettre fin aux délinquants financiers, je crois bien que c'est un député qui doit avoir utilisé ces mots-là à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Si réellement c'est cette volonté-là, c'est-à-dire Mutamba, c'est le premier, et la prison sera... L'idée de créer la prison pour les détourneurs de l'argent public, elle sera accélérée. Elle ne va pas s'arrêter avec l'arrestation ou bien l'ouverture des enquêtes contre l'ancien ministre de Justice et garde des Sceaux. Pour qu'on arrive à saisir les biens des gens et l'argent volé puisse être retourné dans les trésors publics. Nous espérons que cette procédure du procureur général va aboutir à cela.
Merci beaucoup, cher collègue.
Que ça soit seulement la tête. Je disais, la crainte que ça ne soit pas la tête du ministre Mutamba qu'on cherche seulement. Et nous allons, les jours qui suivent, nous en dirons plus.
Merci beaucoup, cher collègue Ernest Moukouli. Nous rappelons que vous êtes directeur des programmes de la radio Ebenezer et correspondant de l'agence France Presse Kisangani. On vous garde en ligne. Je me tourne vers vous, Pascal Kambala. Nous rappelons que vous êtes journaliste à la rédaction des Buan Télévisions. Dites-nous, comment commentez-vous à chaud cette nouvelle relative à la démission du ministre de la Justice et garde des Sceaux? Le 18 juin dernier.
Finalement, c'est légal. C'est ce que demande la Constitution. J'aimerais un peu. J'entends par-ci, par-là, les gens dire il est populiste. Je ne suis pas son partisan. Encore moins membre de son parti politique. Est-ce que les Congolais connaissent qu'il y a une mafia ici au Congo? Est-ce que les Congolais connaissent cela? Qu'il y a une mafia qui règne ici au Congo, qu'il y a des gens qui se disent qu'ils sont intouchables. Est-ce que les gens savent cela?
Naturellement, oui.
Un ministre arrive. Non, Tati, suivez. Quand quelqu'un vient, il dit que il faut qu'il y ait la réforme de la justice. Il faut que les choses bougent. Quand on est des magistrats, nous avons des frères magistrats, des membres des familles qui sont des magistrats. Ils vont vous dire des choses. Ils vont vous dire des choses. Tati, face à la mafia, il faut un comportement dur. Face à la mafia, il faut un comportement dur. Il faut des braves. J'ai dit, l'affaire Mutamba, Vous savez, en pénal général, comme en droit pénal spécial, voire même en procédure pénale, une infraction est caractérisée par trois éléments. L'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral. Il faut l'élément légal, l'infraction de détournement existe au Congo, des fonds publics. Il faudra que cette affaire, le procès, le juge, le procureur, puisse prouver l'élément matériel que Constant Moutamba a détourné l'argent. Première des choses. Deuxième des choses, l'élément moral. Il faudra que le procureur arrive à prouver qu'il y avait une intention, la volonté à prendre cet argent-là. C'est l'élément moral. Si les trois éléments ne sont pas réunis, on ne parlera jamais de cette infraction de détournement de fonds publics. J'aimerais vous dire aussi une chose. Vous savez, en RDC, quand vous détournez les fonds publics, les fonds de l'État, quelle est la sanction, quelle est la servitude pénale? C'est les travaux forcés. Or, les travaux forcés en RDC ne sont pas organisés. J'en appelle aux députés nationaux, aux sénateurs, organisons les travaux forcés en RDC. On dit 20 ans de travaux forcés, vous allez dormir là-bas à Makala, vous ne faites rien. C'est pour nous que notre droit pénal n'évolue pas, qu'on n'arrive pas à mettre à jour notre droit, le code pénal. Vous savez, il y a un sérieux problème dans notre pays que lorsque le ministre appelle à des réformes, mais les gens pensent que c'est du populisme, je l'ai dit. Non, il y a un vrai problème dans notre pays. Il faut qu'on ne puisse pas politiser beaucoup de choses. S'il a volé l'argent, il a détourné l'argent, il faudra que le droit, la justice arrive à prouver.
Parce qu'il y a également, chers collègues, la dimension liée au principe de la présomption d'innocence. Donc, les enquêtes vont commencer et puis on va voir si on démontre la culpabilité ou pas.
C'est cela. Mais c'est cela. Vous savez, il y a une idée qui vient. Vous savez, à l'époque, le ministre de la Justice, Tambo Mama, parlait des 3 V. Veste comme villa, V comme voiture. C'était aussi du populisme. Pourquoi poser la question au ministre Tambo Mama? Pourquoi il disait ça? Poser la question aussi à Luzolo Bambi, qui était ministre de la Justice. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème. Nous voulions que les choses changent dans notre pays. La justice ne va pas changer sans les magistrats. La justice va changer avec les magistrats et avec des magistrats courageux. Pas des magistrats politisés, mais des magistrats courageux, à l'instar, je l'ai dit, des magistrats italiens qui sont arrivés à réduire la mafia sicilienne. Donc, dans notre pays ici, le détournement des fonds publics, je l'ai dit, est devenu le sport national. Il faut rappeler dans les médias Jules Alenghetti. Rappelez Jules Alenghetti, il va vous dire les dossiers qu'il a eu à gérer. Les dossiers dans l'IGF là-bas. Je vous dis, nous sommes dans un pays dangereux où la mafia est là, le détournement des fonds publics est là, la corruption est là. Il faudra que tous les Congolais nous puissions ouvrir grandement, avoir une conscience pour s'attaquer à ce phénomène.
Merci beaucoup, cher Pascal.
Je n'ai pas les éléments de tous les dossiers judiciaires, mais je l'ai dit, il faudra que la Cour, les procureurs surtout, parce que c'est lui qui poursuit Constant Moutamba, arrive à donner les trois éléments de cette infraction de détournement des fonds publics, et surtout l'élément matériel et l'élément moral. Là, la justice sera faite et les Congolais vont comprendre effectivement les magistrats jouent leur rôle à l'heure actuelle au Congo.
Et ce qui est vrai, que nous devons préciser que la justice élève une nation et l'impunité ne doit pas continuer à demeurer dans le secteur, surtout pour les détenteurs. L'impunité ne doit pas continuer à demeurer en termes de détournements qui sont documentés ici en RDC. Merci à vous trois d'avoir analysé ces thèmes, ces rapportant la démission de Maître Constant Moutamba, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la RDC, qui est accusé d'avoir détourner les fonds destinés au projet de construction d'une prison à Kisangani. Nous sommes là dans la province de la Tchopo.
L'information se retrouve aussi tout le jour sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Alors, le deuxième sujet, le deuxième et les derniers thèmes de ce soir concerne, chers collègues, la signature de l'accord préliminaire de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique et l'observation du Qatar. Cet accord vise à mettre fin aux hostilités à l'est de la RDC et à restaurer la coopération bilatérale entre les deux nations. Il comprend des dispositions sur le respect de l'intégrité territoriale de la RDC, le désarmement des groupes armés non étatique et la mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Comment analysez-vous cette nouvelle, chers collègues? Nous commençons par vous, John Kanyunyu. Nous rappelons que vous êtes correspondant de Deutsche Welle. On vous donne la parole, chers collègues, John.
Oui, merci beaucoup. Nous sommes en train de suivre le déroulement des négociations de l'accord entre la RDC et le Rwanda. Sous les auspices des États-Unis, sous le vigilant du Qatar, qui n'est autre que pays des États-Unis chez nous. Moi, je veux dire, ce qu'on a publié la fois dernière, quand on parle de groupes armés non étatiques, bon, je ne sais pas de quel groupe on parle, parce que normalement, il n'y a jamais eu de groupes armés étatiques, à part... les Maïmaï, appelés communément actuellement Wazalendo, mais il faut savoir aussi si tous les groupes Maïmaï sont convertis en Wazalendo, parce que, à ce que je sache, l'AFM 23 a aussi ces groupes armés Maïmaï et autres. Sont-ils aussi Wazalendo, donc la réserve de l'armée? Je ne sais pas. Et quand on parle, j'ai lu sur le compte X de la porte-parole du président de la République, Tina Salama, là où elle a parlé du programme de désarmement. Alors je me dis, est-ce que l'AFM 23, avec tout l'effectif qu'il a, avec tout l'arsenal qu'il a, bien sûr, bon nombre d'armes, ce mouvement rebelle l'a hérité à la prise de Goma. Alors je me dis, avec ces centaines de militaires, ou pour ne pas dire 5 000, parce que ça se chuchote sur les réseaux sociaux, est-ce que ce groupe armé non étatique, je présume, sera disposé à déposer les armes et voir, parce qu'on a parlé des cas par A, est-ce que ces groupes armés qui négocient avec le gouvernement à Doha sera d'accord avec cette logique-là? Je ne sais pas.
Oui, parce qu'en même temps, chers collègues, parce qu'en même temps aussi, ce qu'on observe est que le CLFA a été signé en avril dernier, il n'a jamais été respecté, et sur le terrain, il y a des accrochages sporadiques. Nous ne savons pas si les clauses de ces documents permettront à ce que la paix revienne à l'est de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, chers collègues, on vous garde en ligne. Je me tourne vers vous, Ernest Moukouli. Nous rappelons que vous êtes directeur des programmes de la radio Ebenezer et correspondant de l'AFP. Kisangani, comment commentez-vous cette actualité relative à la signature, à la signature de l'accord préliminaire de paix entre la RDC et le Rwanda?
Bon, c'est une intention qui concrétise l'adage qui dit « on tire les diables par la queue ». C'est-à-dire, vous savez, dans l'humiliation que les forces onusiennes ont connu, même celles des différentes de régionales, qu'ils ont connu à Goma, pourquoi pas à Bukavu. Comment ça se demander, comment mettre un terme à la stratégie dans le Congo? Oui? Est-ce qu'il y aurait des risques dans l'avenir qu'on assiste à une réclamation d'indépendance de certains de nos compatriotes de l'Est? Il y avait beaucoup de questionnements comme ça. Et que je crois que Kinshasa a vite compris, après la prise de Bukavu, et il est allé derrière les diables pour les tirer. Et heureusement, Washington, pour la première fois, hein, c'est pour la première fois depuis que moi, j'essaie de comprendre les négociations, ils ont toujours envoyé les envoyés spéciaux qui viennent à Kinshasa, du président Obama, les envoyés spéciaux des États-Unis d'Amérique. Mais cette fois-ci, c'est le gouvernement américain lui-même qui se charge, sans intermédiaire, sans même associer les États-Unis. Je pense que ça, c'est un grand succès. De Tshisekedi, du président Tshisekedi. Maintenant, parce que vous savez, toutes les initiatives de souveraineté de notre pays ont toujours été torpillées de l'extérieur et malheureusement de l'intérieur. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, cher confrère. C'est pourquoi cette fois-ci, avec l'implication de Washington, nous sommes en train de vivre ce qu'on ne pensait plus que ça pouvait être le cas aujourd'hui.
Mais en même temps aussi, cher collègue John, notre collègue John, il a relevé que les concepts, par exemple, de désarmement des groupes armés non étatiques semblent être ambigu.
Oui, c'est pourquoi il y a quand même des réserves. J'essaie de saluer cette procédure, cet accord en chantier. Je les salue sur des pincettes, hein, ça c'est sûr, parce que les communautés qui soulèvent les enjeux sécuritaires, le confrère John en a parlé, on ne sait pas si le M23 qui doit rejoindre, je crois bien, les rangs des FARDC, hein, c'est le prix à payer, apparemment, selon ces communiqués tels que moi j'essaie de comprendre. Pourquoi on est l'interdiction des hostilités? Il s'agit de quelle hostilité? Hostilité diplomatique, politique, mais de communicationnel, ou bien c'est uniquement sur le plan militaire. Mais le document parle aussi de l'interdiction conditionnelle, du conditionnel. Alors, ces conditions seront fixées, j'espère bien, dans la suite des discussions, pour que puissions comprendre si le M23, c'est un groupe armé, ou bien il a un statut à côté. Pourquoi pas aussi l'FCM, l'AFC. Bon, et je voulais aussi, sur le plan, les enjeux politiques, les communiqués soulèvent aussi les enjeux politiques. Alors, on se demande sur, par exemple, le futur de l'administration, des localités, des villes qui sont sous contrôle aujourd'hui, mais aussi l'avenir de l'AFC M23.
Tout à fait.
Hein? Pourquoi pas aussi de l'ancien président Joseph Kabila, son avenir par rapport à cette démarche-là. Tout ça, ce sont les enjeux politiques qui restent à définir, qui risquent d'être très amers pour les uns, mais comme il s'agit des négociations, il y a toujours de ce qu'on va concéder et le fait que nous pourrions aussi, l'État congolais ou bien le gouvernement Kinshasa pourra gagner. Aussi, c'est au niveau aussi des enjeux économiques. N'est-ce pas, le Rwanda serait derrière les enjeux économiques? Parce qu'on a soulevé ça, mais on ne sait pas concrètement qu'est-ce que le Rwanda serait en train de gagner. Il s'attend à quoi? Parce que beaucoup des habitants de la ville de Kisangani se demandent si réellement et sincèrement Kigali et les puissances occidentales accepteraient de revoir leur discours qui faisait remonter la guerre actuelle au temps colonial, à la division même de nos frontières. Et tout ça, ça me laisse un peu perplexe la suite de ces négociations, même si ça a aidé le Congo à éviter d'autres morts inutiles. Nous espérons que cet élan de la fin de la guerre sera effectif et surtout la reprise des relations entre les deux pays, rwandais, congolais, on ne pourra jamais faire déplacer nos frontières.
Merci beaucoup, cher collègue Ernest Moukouli, pour votre analyse. Hein. Nous rappelons que vous êtes directeur des programmes de la radio Ebenezer et correspondant de l'AFP à Kisangani. Je me tourne vers vous, Pascal Kambala. Nous rappelons que vous êtes journaliste à la rédaction de Biwan Télévision. Comment commentez-vous cette actualité relative à la signature de l'accord préliminaire de paix entre la RDC et les Rwandais sous la médiation des États-Unis et la supervision du Qatar?
Bon, Tati, vous savez, moi ça me fait rire, hein. Vous savez, dans le passé, le Rwanda et son dirigeant étaient dans le mensonge d'État. Ils ne sont pas au Congo, mais que font les Rwandais, les experts rwandais à Washington? Pourquoi ils ont signé cet accord préliminaire? accepter ce terme, pour moi, c'est un coming out politique. Les Rwandais et la RDC, les chefs de l'État congolais, Félix Tshisekedi, le gouvernement, les députés nationaux, les sénateurs, les ministres des Affaires étrangères particulièrement, ont fait sortir le Rwanda là où il s'est caché. Tout le monde maintenant les connaît. Des gens qui tuent au Congo. Ce sont des Rwandais qui tuent au Congo. Les régimes rwandais tuent au Congo. Et ils signent l'accord préliminaire. Bravo. Bravo à tous les Congolais qui ont travaillé là-dessus. Pour qu'aujourd'hui, finalement, tout le monde connaît que les militaires rwandais sont au Congo et les dirigeants rwandais, c'est lui qui opère au Congo, qui pille, qui tue au Congo.
Même le président, cher collègue Pascal, nous soulignons que le chef de l'État du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, il a salué ses premiers pas de négociation ce matin dans les médias. Ça, c'est encourageant.
Non, mais en fait, moi, quand je vous parlais du président au Congo-Brazzaville, je vois l'Union africaine. L'Union africaine ne fait rien. Moi, c'est comme institution. Je ne sais même pas pourquoi on en fait partie. Vous voyez, à plus de 16 000 kilomètres à Washington, qu'on signe cet accord. Où sont les Africains? On tue. Les Africains entre eux s'entretuent par guerre, par population. Comme ça. Les Africains sont où? C'est une honte aujourd'hui. Parler de l'Union africaine et des présidents africains, c'est une honte. Il faut maintenant qu'on en parle. L'Union africaine a monté ses limites, c'est une honte. Bravo à Donald Trump qui a prouvé que c'est un leader. Donald Trump est passé dessus les Nations Unies, dessus l'Union européenne, dessus l'Union africaine. En tant que dirigeant d'une grande puissance, il impose la paix. Parce qu'il ne veut pas, je l'ai subi. Il a dit quoi? Vive le Congo, les Rwandais ne les intéressent pas. Mais il pense aux visuels. Regardez l'humanisme qui anime Donald Trump. Il pense à l'humanité, aux gens qu'on tue gratuitement. Donc aujourd'hui, pour moi, l'essentiel, accord préliminaire ou pas, la justice internationale pour mes frères et sœurs qu'on tue gratuitement, qu'on a tué gratuitement au Nord Kivu, au Sud Kivu, à Ituri. Il faut qu'il y ait une justice. Il faut que les Congolais se mobilisent pour qu'il y ait la justice. On ne peut pas comprendre aujourd'hui, on traque les ceux qui ont tué les Juifs à travers le monde et que nous, les Congolais, nous ne bénéficions pas d'une justice pénale internationale. Ça serait une trahison pour nous, Congolais. Les sangs ont trop coulé dans la partie est du pays. Accord à Washington, oui, pour la paix. Mais la partie judiciaire, le côté justice doit être là. On ne peut pas admettre que des gens des vies faussées gratuitement pour que demain, on puisse retrouver celui qui a pris les armes. Il vient ici, devient ministre, il entre dans l'armée. Et ceux qui n'ont pas pris les armes, ceux qui sont ici à Kinshasa, qui combattent les régimes par la parole, qui ne prennent pas les armes, quelle est leur place d'ailleurs dans toutes ces négociations-là? Ils ne sont pas pris en compte. Il ne faut pas que ce genre de choses se répètent. C'est un mauvais précédent pour beaucoup de gens. Pour être respecté, il faut prendre les armes. Non. Il ne faut pas qu'on puisse briser cet élan-là des Congolais. La justice doit être appliquée pour tout le monde. Ceux qui ont pris des armes pour tuer les Congolais, il faut que... Et moi, j'en appelle à la population et à la société civile, aux jeunes des droits de l'homme. C'est le moment de se réveiller, de mobiliser la population pour que davantage on réclame la justice. Ceux qui ont tué doivent être arrêtés et condamnés.
Merci à vous tous d'avoir analysé ces thèmes, ces rapportant à la signature de l'accord préliminaire de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique et la supervision du Qatar. Précisons que la signature officielle de cet accord est prévue le 27 juin prochain. Nous tenons également à remercier vous, nos collègues qui ont participé à ces magazines consacrés à l'analyse des nouvelles qui ont dominé l'actualité pendant cette semaine qui est en train de finir. Je dis merci à John Kanunu, je dis merci à Ernest Mukuli, merci également à vous Pascal Kambala qui est journaliste à la rédaction de BUAN Télévision. Excellent week-end, à la prochaine occasion.
Merci beaucoup.
Merci.
Allô. C'est par ici que s'achève ce numéro de la Tribune de la Presse que j'ai eu l'immense plaisir de la présenter. Kelly Nkouté s'est occupé de la coordination de ce numéro. Martin Seboudjango l'a supervisé et Jean-Claude Ntsiala s'est occupé de la prise de son. Prenez soin de vous et bon week-end à tous et à toutes.